France Musique.
Merci mon cher Nicolas Lafitte et on vous retrouve lundi matin à l'aube.
On va déborder un petit peu, le fichier se termine à 6h58 et 5 secondes. Est-ce que tu peux m'envoyer un petit peu de musique s'il te plaît? Parfait pour le 1000. Est-ce que je peux te mettre à l'antenne?
Il y a du café?
Ouais, du café. J'arrive.
Bonjour à tous, ce matin encore, Fabrication Maison vous entraîne à la découverte des coulisses de la musique à Radio France. Ce matin, nous allons parler orgue. D'abord avec notre invité du portrait, Lionel Avaux, conseiller musical pour l'orgue de Radio France. Et puis dans le reportage de Jérôme Sandlars, nous ferons le point sur ce magnifique instrument qui sera inauguré en décembre. Puis à 8h20, ce sera la chronique de Marie Fauché. À 8h30, le monde fabuleux des archives de Jean-Yves Pat. À 8h45, votre souvenir musical dans Parlez-moi de musique. Et enfin à 8h50, notre feuilleton Question de cœur avec Sophie Janin. Cela vous convient? Alors on y va.
France Musique.
Bonjour Lionel Avaux.
Bonjour.
Alors Lionel, je vous présente un peu aux auditeurs. Vous êtes conseiller musical pour l'orgue à la direction de la musique de Radio France. Waouh ! C'est un titre récent ?
Tout à fait, oui. L'an dernier, j'avais pris un an de congé sabbatique de Radio France pour enseigner au Conservatoire Régional de Lyon. Et puis donc après cette année de congé sabbatique, à mon retour, on m'a proposé des nouvelles missions qui consistent donc à faire vivre notre nouvel orgue qui sera bientôt entendu pour la première fois le 10 décembre prochain.
C'est enseigner l'orgue, car il faut le dire quand même Lionel Avaux, vous êtes un fou d'orgue.
Tout à fait.
Le mot n'est pas trop fort. Hein,
non, c'est vrai. Alors, je suis un petit peu tombé dans la marmite, un peu par hasard. On pourra peut-être y revenir un petit peu plus tard. Mmh. Mais c'est vrai que depuis que j'ai découvert la musique d'orgue, voilà, j'y consacre toute mon énergie. J'enseigne beaucoup. J'ai enregistré un disque, je donne quelques concerts et voilà. Je cherche en tout cas à faire partager ma passion parce que les amateurs d'orgue en général sont vraiment passionnés et n'ont qu'une envie, c'est de faire partager toutes les merveilles de notre instrument.
Alors on va tout de suite plonger au cœur du grand répertoire pour orgue avec le premier choix musical que vous nous avez apporté. Tout le monde va le reconnaître, c'est Bach, Vivaldi, c'est pas mal.
Tout à fait.
C'est vraiment beau hein, le son de cet instrument, et puis ça n'est pas innocent. C'est un instrument que vous avez choisi, Lionel Avaux, parce qu'il est en lien avec le magnifique instrument de Radio France. Oui.
Tout à fait, cet instrument donc est signé du facteur d'orgue Gerhard Grenzing, qui est donc le facteur d'orgue qui a été désigné pour construire le nouvel orgue de l'auditorium de Radio France.
Il a gagné le concours, hein, c'était un appel à projet.
Voilà, c'est ça. Il restait 5 entreprises en finale et donc il y avait tout un comité qui a choisi le facteur et donc ça a été Gerhard Grenzing. Et donc l'orgue que nous venons d'entendre, c'est un orgue qui a été construit en 2011, également dans une salle de concert en Russie à Saint-Pétersbourg, au palais de Tauride. Et donc j'ai souhaité voilà le faire entendre Bach parce qu'évidemment en tant qu'organiste, Bach pour nous est vraiment notre compositeur favori, on ne s'en lasse jamais de travailler.
C'est le compositeur fétiche de l'orgue, un peu, oui. Non,
oui, tout à fait. Vraiment, il y a un répertoire extraordinaire. Je pense notamment à tous les chorales qu'il a écrits pour orgue. Et puis, l'idée, c'était aussi de faire entendre une sonorité de l'orgue. Je pense que ça doit être probablement le principal que l'on a entendu. Et voilà, c'est pour montrer que l'orgue n'est pas le son que souvent on imagine, parce que les gens...
C'est des trucs tonitruants.
Voilà, ouais, c'est vrai, ouais. Que souvent, si on va à des cérémonies religieuses, on entend quelque chose de très fort à l'entrée et à la sortie. On pense toujours que l'orgue n'a que cette sonorité. Et en fait, il y a une richesse de sonorité absolument inouïe.
Alors là, c'était Juan de la Rubia qui jouait, qui est donc l'organiste qui est professeur au Conservatoire de Barcelone, à côté donc de l'atelier Grenzig.
Je ne sais pas s'il est professeur. En tout cas, il est organiste effectivement à Barcelone, notamment au Palau de la Música. Mmh. Et puis également.
Il y a un orgue donc de concert.
Voilà, tout à fait. Et puis également, tout récemment, à la Sagrada Familia, puisque maintenant il y a également un orgue à la Sagrada Familia, qui est en fait dispersé, parce que comme vous le savez, la Sagrada Familia est un lieu très grand, et donc les tuyaux de l'orgue sont un petit peu disséminés à plusieurs endroits de la Sagrada Familia.
Ça doit être étrange, ça.
Oui, tout à fait. Je n'ai pas encore eu le temps de l'écouter.
Alors, ça n'est pas Bach qui vous a conduit à l'orgue, Lionel Avaux, mais c'est plutôt cette musique. Donc c'était un extrait du Requiem de Maurice Duruflé avec l'ensemble vocal Les Éléments, dirigé par Joël Suibiette, à l'orgue Michel Bouvard. Cet enregistrement, ça n'est pas innocent, Lionel Avaux, il est pour beaucoup dans votre vocation ?
Oui, tout à fait. Alors, en fait, c'est un peu par hasard que je me suis pris de passion pour l'orgue. Alors, au départ, il faut savoir que c'est grâce à France Musique, un petit peu, que tout ça est né, puisque j'ai écouté, j'ai écouté une fois le Requiem de Mozart sur France Musique. Alors, j'avais à peu près à cet âge-là 18-19 ans, j'avais fait un peu de piano dans mon enfance. Je reconnais que j'écoutais plus Supertramp et les Beatles que de la musique classique.
Aussi.
Absolument. Je continue aussi d'en écouter. Pris de passion par ce Requiem, je me suis précipité dans ma petite discothèque de quartier municipal avec pour objectif de réécouter la musique classique et je suis arrivé un petit peu désemparé devant tous les bacs de 33 tours qu'il y avait à ce moment-là. Et je me suis dit, une piste pour chercher des œuvres que je pourrais emprunter, des disques que je pourrais emprunter, ce serait d'emprunter tous les Requiem que je vais trouver. Donc j'ai cherché un petit peu par hasard et à la lettre D, je suis tombé à Duruflé, Requiem, compositeur que je ne connaissais pas. J'ai emprunté ce disque. Absolument fasciné et enthousiasmé par ce que j'avais entendu. La semaine suivante, j'ai rapporté le disque et je m'étais promis d'emprunter tout ce que ce compositeur aurait écrit. Et là, grande surprise, il n'y avait qu'un seul disque et c'était un disque de pièces d'orgue. Et je me souviens que j'ai failli pas le prendre en me disant « l'orgue, c'est pas un instrument que j'aime ». voilà, donc j'ai failli ne pas le prendre puis je me dis « bon ». Je m'étais promis d'emprunter tout ce que Maurice Duruflé aurait composé. Donc, j'ai pris ce disque. Et voilà. Puis là, c'était vraiment un coup de foudre pour cette musique-là. Et je l'ai écouté en boucle pendant un an. La face A, la face B, la face A, la face B. Et voilà. Et puis, c'est suite à cela que j'ai souhaité commencer des études d'orgue.
C'est dur, non, à 18 ans, de commencer l'orgue?
Alors, j'ai même commencé plus tard parce que donc, j'ai commencé à 23 ans. J'avais fait d'autres études entre temps. Une maths sup, une prépa HEC, une école de commerce, des choses qui n'ont rien à voir avec la musique. Et puis, j'avais toujours regardé dans un petit coin de ma tête le rêve un peu fou de jouer un jour une pièce de Maurice Duruflé. Et donc, parallèlement à mes études de commerce, je me suis inscrit au Conservatoire de Lille. Et là, j'ai fait une grande rencontre qui a bouleversé ma vie, qui était celle du professeur du Conservatoire de Lille à cette époque-là, Jean Boyer.
Alors Jean Boyer, je vous propose qu'on l'écoute tout de suite dans une musique de Louis-Nicolas Clérambeau. Louis-Nicolas Clérambeau, à l'orgue Jean Boyer. Vous vous extasiez, Lionel Avoux, en écoutant cette interprétation.
Oui, tout à fait. C'est vraiment beaucoup de souvenirs d'avoir entendu Jean Boyer, surtout au concert. Je voulais peut-être dire une chose sur justement sur le pourquoi j'avais choisi cette plage. C'est que pour tous ceux qui ont connu Jean Boyer, nous avons une petite déception par rapport à ses enregistrements discographiques qui ne reflètent pas toute l'émotion qu'il pouvait transmettre pendant ses concerts.
Est-ce que c'est pas toujours un peu le cas avec l'orgue justement? On a l'impression que cet énorme instrument ne peut pas rentrer dans la petite boîte du disque.
C'est vrai, mais le point de vue de Jean Boyer, pour le résumer un petit peu, c'était, il disait qu'un sourire au concert restait un sourire. Il craignait qu'au disque, il savait qu'un disque était fait pour être écouté et réécouté. Il craignait que ce sourire se transforme en grimace. Donc il a un petit peu gommé tous les sourires qu'il faisait au concert pour faire quelque chose de plus, un peu plus froid au disque. Alors c'est absolument extraordinaire. On y apprend en tout cas beaucoup de choses. Voilà, il n'y a rien à reprocher. Mais il n'y a pas l'émotion que l'on retrouve au concert. Et j'ai choisi cette plage parce que par contre là, je retrouve vraiment tous les sourires que Jean Boyer faisait au concert. Voilà, on le retrouve vraiment dans cette plage.
Ça va être une vraie question, la question de l'enregistrement pour l'orgue à Radio France, puisque la vocation de tous les concerts donnés dans cet auditorium, c'est d'être enregistré et diffusé.
Tout à fait. Et alors donc, ce sera diffusé sur France Musique. Et puis, il y a aussi des projets qui vont naître avec la collection Tempérament. Donc, le disque que nous venons d'entendre, vient de la collection Tempérament, qui est une collection de Radio France.
Vieille histoire d'amour entre l'orgue et Radio France.
Absolument. Il y a beaucoup d'orgues historiques absolument merveilleux qui ont été enregistrés dans le cadre de cette collection. Et donc, nous allons poursuivre ces enregistrements toujours sur des orgues historiques, mais également sur l'orgue de Radio France.
Alors, on va parler répertoire, mais avant d'en parler, on va écouter pas de l'orgue. Cette fois-ci, pas de l'orgue.
Thank you.
Magnifique interprétation de Pieter Jelle de Boer de ce prélude de Rachmaninov, Lionel Avo. C'est en effet une des œuvres qu'on peut jouer à l'orgue en transcription, c'est ça?
Tout à fait. Louis Vierne en a fait une transcription et donc c'est une œuvre qui est souvent jouée également à l'orgue. Donc c'est aussi pour ça que j'avais choisi. Et puis c'est à nouveau un clin d'œil à Jean Boyer, puisque Pieter Jelle de Boer est également organiste. Il a travaillé avec Jean Boyer et je trouve que l'on retrouve dans cette pièce beaucoup de l'enseignement de Jean Boyer dans la conduite des phrases, dans l'énergie, dans le fait de mettre l'œuvre en valeur.
Alors c'est une des premières pièces de musique profane, va-t-on dire, parce qu'on a entendu beaucoup de musique sacrée. Il y a maintenant 3 orgues de concert en France,
voilà,
tout à fait. Celui de la Philharmonie, voilà, celui qui vient de Lyon.
De Lyon, là, l'auditorium Maurice Ravel de Lyon, qui est donc un orgue historique Cavaille-École, qui était avant au Palais du Trocadéro.
Et donc nous avons voilà,
2 instruments neufs, l'orgue Rigueur de la Philharmonie de Paris, qui a été entendu pour la première fois au mois d'octobre dernier, et puis l'orgue Grenzing de Radio France.
Est-ce que ça n'est pas beaucoup, parce qu'avec tous les orgues qu'on a dans les églises, on a vraiment suffisamment d'instruments pour jouer le répertoire, non?
Il y a près de 12 000 orgues en France, et effectivement, 3 orgues de salles. Mais il faut bien savoir qu'à l'étranger, dans toutes les salles de concert, au Japon, il n'y a pas une salle de concert sans orgue. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un concerto pour piano, par exemple, serait donné sur un clavinova? C'est inimaginable. Mm-hmm. Et c'est pourtant souvent ce qui est le cas quand il y a des concerts d'orgue dans des salles de concert en France. On loue des orgues électroniques. Les organistes appellent ça des électroniums. On n'aime pas employer le mot d'orgue pour ces instruments. Donc c'est absolument indispensable qu'il y ait des orgues dans les salles de concert. D'une part, pour pouvoir jouer le répertoire très important pour orgue et orchestre qui existe. Je suis en train de répertorier en ce moment un petit peu tout ce qui existe.
Oui, il y a une petite programmation à faire,
Lionel Avo. Il y a plus de 500 œuvres pour orgue et orchestre qui ne sont quasiment jamais jouées en France, alors que souvent ce sont des compositeurs français qui les ont écrites, et qui sont par contre souvent jouées à l'étranger, au Japon, aux États-Unis, dans tous les pays où il y a beaucoup d'orgues de salle. Ça, c'est la première mission. Et l'autre chose aussi qui me paraît indispensable est... Il y a vraiment une attente très forte parmi les amateurs d'orgue. C'est une chance de pouvoir faire découvrir cet instrument à un public qui, pour plein de raisons, ne franchit pas le pas d'une église pour venir écouter l'orgue. L'orgue est un instrument religieux qui sert pour la liturgie, mais c'est aussi un instrument de musique, un instrument de concert. Et avoir un instrument comme ça dans une salle de concert, c'est absolument un outil formidable pour faire découvrir cet instrument à un nouveau public. Et Radio France entend bien le faire par le biais notamment de beaucoup d'actions pédagogiques.
Mmh. Je crois qu'il y a pas mal de projets tout à fait intéressants sur lesquels on reviendra dans cette émission, Lionel Avo. On termine avec les Rencontres de Lyon 2012, un disque d'une association, Orgue en France, parce que finalement il y a beaucoup à la fois d'organistes et d'amis de l'orgue.
Voilà, tout à fait. Et puis, il y a beaucoup d'associations des amis de l'orgue. Et il y a une grande association qui s'appelle Orgue en France, qui a été créée il y a environ 4-5 ans, et qui a pour but de fédérer toutes ces associations et d'avoir une parole auprès des pouvoirs publics, auprès de des salles de concert, par exemple, et surtout auprès des médias. Et donc, il y a une journée nationale de l'orgue qui est organisée chaque année. La prochaine journée, ce sera le 8 mai 2016, et Radio France, évidemment, en profitera pour faire de nombreuses manifestations à cette occasion-là.
Gabriel Fauré, Péléas et Mélisande, opus 80, dans une transcription de Louis Robillard. C'est donc un disque qui vous bouleverse, vous étiez là totalement...
Oui, je me souviens, j'étais présent à ce concert-là, donc on entend d'ailleurs les aléas du concert, ouais. On entend un petit peu les gens tousser, et puis...
On entend plein de bruit de l'instrument.
Absolument, le bruit de la mécanique de l'orgue, ouais. Alors c'est un instrument fabuleux, c'est un instrument de Cavaillé-Coll à Saint-François-de-Sales de Lyon, ouais. Mais c'est vrai qu'on entend tous les bruits de mécanique, on entend parfois des petits retards pour les tireurs de jeu, parce que c'est une tâche très compliquée, il y a pas de combinateur sur cet orgue-là, donc il y a deux assistants de chaque côté de l'organiste qui doivent manœuvrer les jeux de l'orgue pour faire les changements de jeu. Mmh. Et donc, voilà, il y a des petits retards, mais malgré tout, j'avais vraiment envie de faire entendre à nos auditeurs ce morceau. Je trouve qu'il y a une énergie et une émotion vraiment propre au concert. Et puis qui est donnée par un grand monsieur de l'orgue, Louis Robillard, qui est de la génération de Jean Boyer. Voilà, on a de grands organistes en France, de jeunes interprètes absolument fantastiques, et puis des gens comme Louis Robillard ou Daniel Roth, qui sont vraiment des modèles pour nous.
Alors il y a énormément de projets qui sont prévus autour de l'inauguration et puis même de l'ouverture de cet orgue en fait, ici à Radio France. Ça va être assez progressif puisque le chantier est un gros chantier.
Tout à fait. Alors il faut bien dire que la première fois que l'orgue sera entendu, ce sera le 10 décembre prochain avec la Symphonie de Saint-Saëns, avec Vincent Varnier. L'orgue ne sera pas terminé, il y aura environ 80% des jeux qui seront prêts, donc ça ne sera pas l'inauguration de l'orgue, ce sera l'occasion d'entendre les premières notes de l'orgue.
C'est assez émouvant quand même. Voilà.
Le 12 janvier, le chœur et la maîtrise toujours avec l'orgue, et puis le 17 février, il y aura le Requiem de Maurice Duriflé que nous avons entendu au cours de cette émission, dans la version donc orgue seul et chœur. Au mois de mars, le concerto de Poulenc avec l'Orchestre National, un premier récital avec Olivier Latrie et l'inauguration officielle de l'orgue. On a entendu beaucoup de concerts avant, mais en tout cas les grandes manifestations qui permettront un petit peu de couper le ruban. Ce sera donc les 7, 8 et 9 mai 2016 avec beaucoup de concerts, notamment un ciné-concert avec un film de Murnau. Et ça sera Juan de la Rubia que nous avons entendu au début de cette émission qui viendra improviser.
Très bien, alors nous n'en avons pas tout à fait fini avec l'orgue dans notre fabrication maison puisque nous en découvrirons quelques secrets plus techniques tout à l'heure dans le reportage de Jérôme Sandlaz. Mais tout de suite, une archive. Merci Léna Lavaux. Petit morceau de l'histoire de cette belle maison, un enregistrement réalisé à Stockholm en 1964. L'Orchestre National y était en tournée sous la baguette de Charles Munch et jouait Ludwig van Beethoven. Nous écoutions le troisième mouvement, Vivace, de sa symphonie numéro 4. Bonjour Jérôme Sandlaz.
Bonjour Dominique Boutel.
Alors, je ne sais pas pourquoi ce matin, mais je vous sens d'humeur taquine, Jérôme.
Oui, vous ne faites pas si bien dire, ma chère Dominique. J'ai une petite devinette pour vous.
D'accord.
Après avoir joué d'émouvantes premières notes dans l'atelier barcelonais de mon créateur, qui me compare volontiers à un humain avec un poumon et un cerveau, j'ai été entièrement démonté afin de voyager jusqu'à Paris, où mon installation, pièce par pièce, s'est déroulée sur plusieurs semaines. Avec mes 12 mètres de hauteur en façade, on se croirait dans Question pour un champion, et tous les éléments qui me constituent, de la console aux soupapes, en passant par les tuyaux sonores, j'ai été conçu pour m'adapter parfaitement à mon nouveau lieu d'implantation. Je suis sûr que vous avez trouvé la réponse, mais je vous donne tout de même un dernier indice. J'ai été conçu par Gerhard Grenzig, et vous et moi, nous sommes déjà rencontrés. Qui suis-je ?
C'est facile, je crois que j'ai ma petite idée. Ne s'agirait-il pas à tout hasard du nouvel orgue de l'auditorium de la Maison de la Radio ?
C'est gagné. C'est l'un des trésors de Radio France, un orgue du 21e siècle, conçu pour une salle du 21e siècle, comme aime à le rappeler Jean-Michel Minguy, son conservateur. Il y a quelques jours à l'auditorium, l'Orchestre National de France interprétait des œuvres de Benjamin Britten et Tchaïkovski sous la direction d'Edouard Gardner, un chef britannique. Mmh. Ce soir-là, Mario D'Amico et Riccardo Marinsaldi, harmoniste et technicien facteur d'orgue chez Grenzig, devaient retrouver Vincent Varnier, organiste, pour faire le point sur les différents jeux d'orgue en cours d'harmonisation. L'harmonisation, en quelques mots, et pour faire simple, c'est ce véritable travail de fourmi qui consiste à accorder manuellement un à un chacun des tuyaux, et c'est la toute dernière étape avant que l'instrument ne prenne son envol. Alors là, on est dans le grand hall de la maison de la radio, face à l'auditorium. La salle est en train de se vider, il y a un concert qui vient de se terminer. Là, il est un peu plus de 22h.
Oui, on commence tous les jours comme ça, à la nuit. Et on doit travailler après les concerts jusqu'à le matin pour régler tous les sons des quelques tuyaux. C'est seulement possible de le faire avec le silence absolu dans la salle.
Il y a des protections avec des scratchs.
Oui, il faut les protéger. Il y a beaucoup d'activités dans la salle, alors il faut avoir beaucoup de protection pour tout. C'est l'orgue, c'est un instrument énorme qui semble très solide, mais finalement c'est délicat comme un violon. Il y a 4 claviers. Il y a des différentes couleurs de bois pour séparer bien. Ça, c'est le clavier solo, que c'est le 4e. Ça, c'est le grand orgue, c'est le 12e clavier. Après, la pédale, que c'est un 5e clavier, vraiment. Et après, nous avons les positifs, que c'est dans ce côté. Et le 3e, que c'est le récit expressif.
Il y a Vincent Varnier qui nous a rejoint, donc qui est organiste. Vous connaissez tout ça par cœur ?
Alors écoutez, jusqu'à présent, ça ressemble à un orgue, je dois le dire. Alors je suis évidemment très excité d'entendre maintenant le son. Effectivement, la composition est très alléchante. À vrai dire, je l'avais déjà découverte sur le papier. J'avais déjà fait une première visite alors qu'ils installaient, ils commençaient vraiment l'installation. Déjà, sur le plan des timbres, ça a l'air très très alléchant. Vous avez 4 plans sonores plus un pédalier. Donc ça veut dire une multitude de possibilités d'alliage de timbres également. De puissance, mais aussi de souplesse, voyez, donc ça va être vraiment un instrument, je dirais, protéiforme qui va permettre de servir dans toutes les configurations possibles, du récital jusqu'à l'accompagnement du chœur, de l'orchestre, en musique de chambre ou d'autres possibilités, bien sûr. À vrai dire, l'orgue est arrivé de Barcelone, il était complètement fini, mais ce qui est important, c'est maintenant qu'il trouve son âme, donner l'âme à la matière. Et c'est ça le travail de l'harmoniste. Et cet instrument doit maintenant trouver sa raison d'être ici, c'est-à-dire il doit s'adapter à l'acoustique, aux exigences du lieu. Et ça, bien entendu, on ne peut pas le deviner à l'avance. Il m'expliquait que la perception qu'on a depuis la console, nous sommes ici en plein milieu de la scène de l'auditorium, est différente que ce que les gens vont entendre au-dessus. Donc voilà, il faut trouver un compromis, un équilibre, et ça c'est un travail d'artiste si vous voulez. C'est plus que de l'accord, là c'est vraiment donner l'âme à l'instrument, lui donner sa couleur, son identité.
Qu'est-ce que vous faites là ?
On portait la console, il y a 2 consoles, il y a la console mécanique, qui s'est toujours placée à l'orgue, mais il y a une console électronique qui se place dans la scène. Et c'est lourd, mais il faut les mettre pour écouter l'orgue avec la distance que le public écoutera après quand l'orgue sera fini.
Ils ont un système qui permet de retrouver la sensation d'enfoncement. Alors ça va encore être perfectionné et ça permet aussi un confort et je dirais une musicalité au toucher de l'organiste qui aura peut-être l'illusion d'être très près de la source sonore, près du tuyau, près de la mécanique. Le jeu expressif à l'orgue ne se fait pas par le point du bras sur la touche, parce que ça ne sert à rien de taper fort sur un orgue. Il suffit au contraire de jouer sur les silences et sur l'enfoncement progressif des touches. Alors là, évidemment, ça permet toute une subtilité de jeu très intéressante.
Face à nous, il y a des tuyaux, c'est ça qui font combien de mètres ?
Les tuyaux plus grands ici sont des 5 mètres, mais plus grave, ça correspond à un tuyau de 10 mètres. C'est les 32 pieds.
Vous allez les entendre là d'ailleurs.
Est-ce que vous pourriez me décrire ce qu'on a face à nous? Parce que c'est quand même monumental et c'est pas évident à décrire.
Ces tuyaux qu'on peut voir, c'est le principal de la montre des grandes orgues. On peut dire que c'est le son de l'orgue, vraiment. Ça cache les tuyaux de la pédale, qui sont les tuyaux plus grands de l'orgue. Il y a tuyaux de bois, il y a tuyaux métalliques aussi.
Au total, il y en a plus de 5000, c'est vrai?
Ah oui.
5300, je crois.
C'est énorme.
Ah oui, c'est un grand orgue, oui, oui. Et tous les tuyaux sont faits artisanalement. Presque tous les tuyaux sont différents.
Et alors à chaque fois avec une petite ouverture?
Oui, ça c'est la bouche de le tuyau, c'est comme la flûte à bec. Pour régler l'accordage, c'est une autre, c'est la longueur. Mais on sait bouche qu'on voit toujours dans les orgues, ça c'est pour régler les caractéristiques des sons. Il faut faire plus fort, moins fort, et l'attaque, c'est une autre chose très importante. C'est là que les harmonistes, vraiment, on travaille. On dit que c'est la sculpture sonore.
Ce qui serait intéressant, c'est par exemple d'entendre un peu un ensemble de fonds, par exemple du grand orgue, tous ces fonds 16-8 par exemple. Est-ce que ce bourdon de 16 aussi fonctionne? Mettre un peu de pédale aussi?
Ah oui.
Donc une sous-basse, un bourdon, voilà des géographes de 16 pieds, hein, donc c'est un peu la tessiture de la contrebasse d'orchestre, vous voyez. Le bourdon 32, bien sûr. On peut peut-être mettre une tirasse grand orgue. Ça va avoir beaucoup d'allure. Et puis peut-être aller chercher quelques fonds du récit. Voilà, c'est le côté chantant. Et puis en mettant l'accouplement du récit sur le grand orgue qui est ici. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. C'est vraiment impressionnant, hein. Alors là, Mario, il m'a fait un petit crescendo en plus de ce que j'avais choisi au départ. Donc là, on a vraiment entendu l'ensemble des jeux de fond. C'est-à-dire qu'on pourrait assimiler à l'orchestre, par exemple, aux cordes. Et qui progressent, par exemple, de plans sonores assez lointains. On peut en plus faire des nuances. En les tuyaux de 3 claviers sur 4 sont enfermés dans une boîte avec des jalousies. Donc on peut encore les éloigner au niveau du son. Donc vous voyez, vous avez un plan sonore, par exemple, qui fait ça, hein. Puis le plan sonore fort ici. Voilà. Là vous avez entendu en fait de plus en plus fort. Et bien entendu on peut mélanger ces jeux. Par exemple ici il y a un jeu très sympathique qui est la flûte harmonique. Et j'avais déjà dit à Mario qu'elle me plaisait beaucoup. Je vais juste vous faire entendre. Elle virevolte dans tous les sens celle-ci. Ça, vraiment, je dois dire, la précision, on est quand même à une certaine distance et ça répond très très bien. C'est important, ça aussi, la précision de la diction du tuyau. Je crois qu'on aura une deuxième flûte harmonique, ça tu me disais tout à l'heure.
Oui, dans les grandes orgues, il y a aussi une flûte harmonique. Il y a une chose, c'est une curiosité, ça veut dire, c'est la flûte de haute pression dans les quatrièmes claviers. Ça travaille avec le triple de la pression normale d'une orgue de cette caractéristique. Ah, oui. pour ajouter la puissance dans le grand tutti sur l'orchestre.
On peut faire un écho entre les deux à ce moment-là, par exemple, si on fait...
Comment il sonne cet auditorium, Mario, pour vous ?
C'est une belle acoustique, c'est une acoustique très claire, très détaillée.
Quand même, l'écran habituel de l'orgue tel que nous connaissons sont les cathédrales, les églises, souvent avec des acoustiques assez longues. Ici, c'est une acoustique assez sèche et ce n'est pas une immense salle. Donc, je trouve que justement, ils ont fait un bel effort pour donner de la largeur à l'harmonie, justement, pour compenser, si vous voulez, la relative sécheresse. Et ça, voilà, je vais revenir regarder bien dans le détail, mais en tout cas, là, c'est cette rondeur orchestrale qui me plaît déjà dans les ensembles que nous avons essayés.
On pourrait croire que l'orgue fait partie de la famille des pianos parce qu'il y a des claviers, alors que pas du tout, parce que le piano fait partie des instruments à cordes et l'orgue fait partie des instruments à vent, c'est ça ?
Ah oui, c'est l'émission du son n'a rien à voir. C'est, vous avez bien résumé, hein, l'un est un instrument à cordes, l'autre un instrument à vent. Hein, alors bien sûr, ils ont en commun le clavier. Finalement, le piano descend du clavecin. L'orgue a eu aussi un âge d'or au XVIIe et XVIIIe siècle et il partageait la vedette avec le clavecin. Le piano, finalement, est arrivé par la suite. Il se trouve aussi quand même qu'à partir du XIXe siècle et XXe siècle, la littérature d'orgue, tous ces grands organistes français, allemands, européens, américains, étaient tous de brillants pianistes aussi. Donc il y a quand même des points communs dans la technique, mais pas dans le son. Vincent Varnier, vous allez bientôt interpréter, je crois le 10 décembre, c'est ça ? En effet, oui.
La symphonie numéro 3 de Saint-Saëns.
Symphonie avec orgue, puis c'est évidemment à être interprété avec l'orchestre. Et ça sera l'Orchestre National de France, dirigé par Christophe Eschenbach. Donc je suis très très heureux de participer à ce concert. C'est là où on entendra pour la première fois l'orgue en public, on va dire. Et c'est évidemment une œuvre de référence pour la formation orgue et orchestre, une œuvre très célèbre bien sûr, où l'orgue n'est pas un soliste à proprement parler, il s'intègre dans l'orchestre. Alors bien sûr il y a le final avec cette puissance étonnante qui est développée à la fois par l'orgue, par l'orchestre, par le dialogue, puis il y a le mouvement lent aussi où l'orgue apparaît de manière très poétique. Donc ça va permettre de déployer quand même tout un éventail de possibilités offertes par cet instrument. Et c'est pour ça qu'ils ont absolument tenu à faire un instrument le plus maniable possible, qui offre le plus de possibilités à l'interprète. C'est-à-dire que le chef d'orchestre pourra attendre finalement beaucoup de l'organiste qui va jouer avec lui. Et ça c'est important, parce que ça va être un travail d'ensemble, si vous voulez. Donc je me réjouis beaucoup, vous voyez là c'est la première fois que j'essaye un certain nombre de timbres, et je trouve que c'est très prometteur ce que nous entendons là.
Il est 23h10 là. Vous allez travailler jusqu'à quelle heure là?
6h du matin normalement.
À bientôt.
Merci, à bientôt.
Alors l'orgue, j'imagine qu'on va en reparler d'ici peu dans Fabrication
Maison. Il y a des chances, oui.
Mais en attendant, je vous rappelle quand même les dates des prochains concerts. Donc il y aura un concert le 10 décembre prochain à 20h.
Concert d'inauguration.
Voilà, Vincent Varnier sera à l'orgue, Mathieu Dufour à la flûte. Ils seront évidemment entourés, accompagnés de l'Orchestre National de France et interpréteront la symphonie numéro 3 avec orgue de Camille Saint-Saëns sous la direction de Christophe Eschenbach. Et je précise au passage que c'est déjà complet.
Et oui, malheureusement. Voilà.
Mais néanmoins, pour les amateurs d'orgue, je vous annonce un autre concert le 12 décembre à 18h avec cette fois des œuvres de Gabriel Fauré et c'est Denis Contet qui sera à l'orgue entouré de la maîtrise de Radio France sous la direction de Marie-Noëlle Martin.
Merci beaucoup Jérôme Sandelard et à bientôt.
À bientôt.
La chronique de la Maison Ronde. Bonjour Marie Fauché.
Bonjour Dominique. Bonjour à tous. Qu'on est bien à Paris. Paris est tout ce que l'on voudrait qu'il fût. Tu peux t'y divertir, t'y ennuyer, y rire, y pleurer. Faire ce que bon te semble sans que personne ne te gratifie d'un regard. Frédéric Chopin, 1831.
Paris, ville de musique et de liberté alors.
Et oui, ça dure depuis des siècles.
Et ça va continuer.
C'est ça, la vie parisienne. On va courir, on va sortir, sortir à pied, pas en berline, Offenbach.
On va courir, on va sortir avec Maddy Mesplé, orchestre du Capital de Toulouse et Michel Plasson à la direction.
Oui, sortons le canal Saint-Martin d'Henri Sauguet. C'est un peu désuet, un peu naïf. On se croirait dans un studio de cinéma avec des fleurs en plastique. Du canal Saint-Martin, traverser la Seine, longer le jardin des plantes et prendre un thé à la menthe bouillant à la mosquée de Paris.
La mosquée de Paris, c'est extrait d'une suite symphonique de Jacques Ibert.
C'est au bois mélismatique qui évoque la zourna arabe. C'est un petit peu cliché.
On se croirait dans le film Casablanca.
Oui, d'ailleurs, je salue Humphrey Bogart qui est derrière la vitre.
On a de la chance.
Pendant que nous sommes dans le 5e arrondissement de Paris, Je veux dire, du côté de la Grande Mosquée, il faut absolument aller faire un tour sur la montagne Sainte-Geneviève, où se trouvent quelques hauts lieux de savoir, d'instruction, d'éducation, d'histoire, importants par les temps qui courent. Il y a par exemple le lycée Henri IV, qui est bâti sur les restes de l'abbaye Sainte-Geneviève du Mont, fondée par Clovis au VIe siècle. Marin Marais a composé une passe à caille, inspirée de la sonnerie de cette abbaye disparue. La basse obstinée de la passe à caille est composée de 3 notes seulement. Ré, fa, mi, ré, fa, mi. Sans doute la fameuse sonnerie de l'abbaye. Les 3 notes qui font la passe à caille, on passe aux 3 temps qui font la valse. Paris Walzer de Johann Strauss, père. On pourrait l'entendre à Avenue Montaigne, au Théâtre des Champs-Élysées par exemple. Et nous voilà tout près de la maison de la radio. Eh bien, ça tombe bien, puisque même dans la tourmente, elle n'a presque pas cessé d'être ouverte au public. Ce soir, Bartok, Beethoven avec l'Orchestre National de France. Demain, Mozart, Carl-Philippe Emmanuel Bach, Boccherini, Haydn avec l'Orchestre Philharmonique. Thank you. Le final de la symphonie numéro 83 de Haydn par Leonard Bernstein et l'Orchestre Philharmonique de New York. Cette symphonie, c'est la deuxième des six symphonies parisiennes. Et demain, à l'Auditorium de Radio France, ce sera la dernière symphonie de Haydn, la 104e, qui sera donnée par l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Le concert est à 16h.
Et puis vous pouvez donc également retrouver l'Orchestre National de France, dirigé par Daniele Gatti, ce soir, à la Maison de la Radio, avec au programme la 7e symphonie et l'ouverture des Créatures de Prométhée de Beethoven et le 3e concerto pour piano de Bartok avec Des Heures Enquis. Merci Marie Fauché, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Agenda. La Maison de la Radio a rouvert ses portes, alors venez donc nous rejoindre pour partager des moments de musique. Par exemple, demain, dimanche 22 novembre à 16h, l'Orchestre Philharmonique de Radio France propose une heure de musique. Mozart, Carl Philipp Emanuel Bach, Boccherini, Haydn, avec Truls Mork au violoncelle. C'est donc à 16h. Lundi 23 novembre à 19h, enregistrement de l'émission de Stéphane Goldet, Plaisir du Quatuor, avec le Quatuor Bella, dans un programme consacré à des compositeurs disparus dans les camps de concentration, intitulé « Trois frères de leur âge ». Ces trois frères, ce sont Hans Krása, Pavel Haas et Erwin Schulhoff. Mardi 24 novembre à 20h30, la maîtrise de Radio France sera à Notre-Dame de Paris dans le cadre de la série « Musique sacrée à Notre-Dame » dans un programme qui mêle des musiques du Nord et des musiques allemandes. La maîtrise de Radio France et la maîtrise de Notre-Dame de Paris seront dirigées par Sophie Janin et Henri Chalet, à l'orgue Yves Castagnet. Et mercredi 25 novembre à 19h30 au studio 105, l'émission Partons en live de France Inter recevra Alexis Hachka et Oxmo Puccino.
France Musique.
Veuillez écouter un reportage d'actualité. Veuillez écouter notre concert de musique de chambre.
Le monde fabuleux des archives sonores. Bonjour Jean-Yves Paz.
Et bonjour Dominique et bonjour à tous.
Alors on poursuit notre petite promenade française, on va dire.
Ah oui, française, hexagonale même.
Hexagonale.
Et nous allons dans un coin de l'hexagone qui est à l'est, puisque nous allons nous intéresser à Radio Strasbourg, PTT Strasbourg. Et ça tombe bien, vous voyez comme les choses sont bien faites. Vous avez parlé tout à l'heure de Charles Munch.
Oui, en effet.
Bien, Charles Munch a été une des vedettes de Radio PTT Strasbourg et c'est même sans doute là qu'il a commencé à diriger
sa carrière,
voilà.
Oui.
Radio PTT Strasbourg, on est dans un contexte très particulier. Vous savez, après la guerre de 14, l'Alsace et la Lorraine sont revenus à la France. Et dès que les radios ont été en capacité d'émettre un peu plus loin que le coin de la rue, il a fallu mettre en place un poste qui soit capable de tenir tête et même de fanfaronner devant l'Allemagne. Et ça diffusait donc assez loin en Allemagne et sur toute la région jusqu'en Champagne. Donc c'était une radio très très importante, dotée de moyens extrêmement importants. On vient parler de son orchestre, mais aussi d'une ligne politique. Il fallait réassurer. Voilà, par les Français, par les Alsaciens, et
ah
non
oui,
pas
aussi.
Allemands, et réassurer le positionnement. Et petit à petit, jusque dans la fin des années 30, cette radio devient une radio de plus en plus de propagande, devient de plus en plus politisée, et en 1940, en juin 40, c'est une radio qui sera sabordée par l'armée française, face évidemment, vous le savez bien, à la défaite française. Donc c'est une radio assez particulière devant laquelle nous nous trouvons, ce qui n'empêche pas qu'on y rigole quand même.
Mm-hmm.
Et la preuve, je vais vous faire entendre « Je suis alsacien », Lieschen und Fritzchen de Jacques Offenbach, chanté par Madeleine Renaud et Jacques Bertin.
Ah oui.
Ben oui. Alors écoutez, c'est une petite perle.
Je suis alsacien.
Je suis alsacien.
Quand une alsacienne
soit un alsacien,
elle reste alsacien.
Il reste alsacien.
Nous sommes de vrais alsaciens.
Oh 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 oh. Qui veut nos balades, nos vieilles chansons,
nos paroles qu'on bade sur les frais gazons.
C'est dans nos familles qu'on voit, Dieu merci,
les plus belles filles.
Je dois croire ainsi.
C'est dans nos villages qu'on voit de tout.
Ah ouais, la vie est vraiment un plaisir en Alsace. Hein.
Oui, même un délire, on peut le dire.
C'est un petit morceau d'anthologie quand même.
C'est un grand morceau d'anthologie. On ne comprend pas pourquoi ils ne sont pas passés directement à l'opéra. Là, il y a
quelque chose Madeleine Renaud et Jacques Bertin, ça n'est pas rien. Avec l'orchestre dirigé par Roger Guttinger. Et c'est un disque Lumen, Paris 1932. Lumen, ça vient d'où?
Ça vient de Lumière.
Merci Jean-Yves pour ce
petit intéressant comme remarque.
Oui, c'est intéressant.
Mais c'est une marque de disques parisienne qui est née dans l'entre-deux-guerres et qui poursuivra sa carrière jusque dans les années 50.
Je crois que c'était une marque alsacienne.
Non, pas du tout. Mais vous pouvez noter que Offenbach est alsacien à n'en pas douter. Donc il a le droit de se moquer des siens.
Ah bon, d'accord. Voilà. Ok, s'il a le droit, ok.
Tout est sauf.
Alors, vous disiez qu'il y avait, dans cette radio PTT Strasbourg qu'on évoque ce matin, Jean-Yves, quand même une grande part laissée à la musique classique.
Oui, c'est une radio très cultivée parce que justement, elle fait face à la culture allemande, à la grande culture germanique. Et il y a une espèce de rivalité qui se met en place. Et je crois que le meilleur exemple, c'est d'entendre le deuxième mouvement du concerto en la mineure pour piano et orchestre de Robert Schumann, une œuvre éminemment du romantisme allemand, mais qui est jouée par un Français de l'intérieur, Yves Natt, qui, vous le savez, était plutôt méridional, et qui, en 1932, enregistre ce disque-là, enfin ce concerto-là, qui recevra en 1933, année fatidique s'il en est, le Grand Prix du disque, et qui va donc être diffusé assez largement sur les antennes nationales, et alsaciennes en particulier.
Thank you.
Ça s'arrête un petit peu brutalement, Jean-Yves Pat.
Oui, bah, hélas,
c'est
puisque...
C'est le support qui veut ça, peut-être. Aussi,
voilà, c'est le 78 tours qui coupe un peu brutalement. Mmh. Normalement, le troisième mouvement s'enchaîne immédiatement, mais là, il aurait fallu continuer, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir quand même que cette musique est une musique qui, au-delà du conflit qui oppose, qui est un conflit larvé encore, qui oppose les deux radios, rassemble quand même autour d'une qualité excellente.
Alors, on rappelle que c'est le concerto en la mineur pour piano et orchestre dans l'interprétation magnifique d'Yves Nat, concerto de Robert Schumann. C'était le deuxième mouvement. Et l'orchestre est dirigé par Eugène Bigot, l'orchestre...
C'est un orchestre.
C'est un orchestre. C'est un disque Columbia, Paris 1932, qui a reçu pas mal de dommages, finalement.
Oui, la presse musicale unanime lui a décerné le Grand Prix du disque en 1933, comme on le disait tout à l'heure, ce qui n'est pas rien comme distinction, surtout à cette époque-là. Alors, pour continuer et pour finir peut-être un peu ce chapitre de la rivalité, on va faire un retour en arrière, et justement autour de Schumann. Vous savez, Schumann avait écrit cette magnifique mélodie, Les Trois Grenadiers, qui montrait trois grenadiers des Français qui, après les conquêtes impériales, s'en revenaient vers la France et étaient déçus. Eh bien, il y a la réponse du berger à la bergère. Gustave Nadeau a écrit Les Trois Hussards sur un poème de Lyonnais qui traite un petit peu le même sujet et qui, bien entendu, nous rappelle cette rivalité qui a opposé longtemps, hélas, la France et l'Allemagne au cours du 19e siècle. Et c'est Léon Marcel du Trianon Lyrique qui nous propose ce disque avec Lucien Würmser, grand professeur de piano et grand pianiste lui-même du début du 20e siècle, qui dirige depuis le piano Pleyel, cette fois on sait bien, un orchestre. Et vous verrez quand même que l'orchestre est réduit à sa plus simple expression.
On écoute tout de suite. Les trois hussards, chantés par Léon Marcel du Trianon, ténor du Trianon Lyrique.
Oui, qui était une grande scène parisienne qui s'intéressait un petit peu plus aux ouvrages légers et fantaisistes. Et c'est vrai que Gustave Nadeau n'a pas l'étoffe du compositeur de Robert Schumann. C'est bien clair, mais il y a quand même une volonté de réponse dans ces thèmes, de montrer que nous aussi, on est capable de traiter...
D'écrire un répertoire à la française, sur des thèmes graves.
Exactement.
L'orchestre était dirigé depuis le piano Pleyel par Lucien Würmser, et c'est un disque... Non pas aéroplane.
Mais aérophone.
Aérophone, Paris vers 1925.
Oui, alors c'est intéressant en même temps parce qu'on est dans les tout premiers disques enregistrés avec micro et on sent bien qu'ils ont du mal à maîtriser la technique.
Oui,
la
part du disque, beaucoup de choses.
Le disque est en très bon état et on a l'impression qu'il est complètement pourri. En fait, c'est juste une mauvaise adéquation entre l'utilisation du micro et le support. Tant pis.
Tant pis. Vous revenez quand même la semaine prochaine.
Je le crains, nous allons encore nous promener un peu et puis après on va rentrer dans les radios.
Et voici notre rubrique Parlez-moi de musique dans laquelle vous nous confiez vos souvenirs musicaux. Ce matin, nous découvrons le souvenir de Didier Larep. L'envie me prend d'écouter de la musique, d'en entendre comme si j'en étais sevrée depuis tellement longtemps. Beethoven, 9e quatuor, opus 59, numéro 3 en do majeur. Tonalité sans trop de dièse ou de bémol. Beethoven s'est-il jamais soucié de les compter? L'un des trois quatuors dédiés au comte, au prince, je ne sais plus, ni un mufti, ni un élu de la République, en tout cas, Razoumovski. Premier mouvement de la musique s'engouffre dans ma tête, net, vibrante. Quatrième mouvement, allegro molto, course-poursuite des quatre solistes. Pas une fugue non plus. Je commence une phrase, tu la reprends un peu plus loin, et je reviens, un autre à son tour, et je ponctue ce qu'il dit, ce que tu dis, ce que vous dites. Les quatre instruments ont pris toute la place disponible, comme si j'étais à l'intérieur, totalement. Et la musique finit comme elle doit finir. Trois accords, cadence finale, naturelle, ici donnée au tout dernier moment. Comme si Beethoven n'avait pas voulu en rester là. La lumière est revenue. Je garde les yeux fermés, paupières closes. Je suis ici, fauteuil club, bibliothèque. Pas de feu aujourd'hui. Musique. La musique n'est plus dans ma tête. Ici dans la pièce, toujours Beethoven. Le parfait équilibre d'une communauté temporaire, soudée et forte, hiérarchisée, donner le meilleur de soi et de ses capacités au service d'une vision fulgurance d'il y a plusieurs siècles ou d'il y a quelques jours, forme parfaite. L'homo sapiens a bien su, à un moment de son histoire, créer des formes parfaites. Est-ce suffisant pour rester encore un peu optimiste? Muss es sein, es muss sein. Thank you. Merci à Didier Larepe pour son texte que nous avons illustré avec le dernier mouvement du 9e quatuor de Beethoven dans l'interprétation du quatuor de Tokyo. Vous le savez, cette rubrique, c'est la vôtre. Alors n'hésitez pas à nous envoyer vos textes par mail ou par courrier et je me ferai un plaisir de vous lire à ce micro. Question de cœur. Bonjour Sophie Janin.
Bonjour.
Tout ce mois de novembre, nous nous interrogeons avec vous sur la technique de direction d'orchestre et de chœur finalement. Vous dirigez le chœur et la maîtrise de Radio France, mais vous dirigez aussi parfois les orchestres. Est-ce que la direction est la même partout? C'est-à-dire, est-ce que ça change selon les pays ou est-ce que c'est un petit peu général?
Ça change, je pense, surtout entre les personnalités. Et c'est finalement des individus qui communiquent un langage très personnel, même s'il y a des bases universelles aussi. Et là, en effet, on peut voir des différences aussi géographiques même. On parle souvent de l'école russe, les élèves qui sont passés par l'école de Mousine, avec une certaine technique qui est reconnaissable dans un mouvement, dans des gestes qui sont souvent assez circulaires, très dans la, voilà, avec une action de poignet assez particulière. On peut aussi reconnaître, on va dire, l'école allemande, quand on dit plus ou moins, c'est-à-dire que la main droite et la main gauche sont très, très séparées, où la main droite garde vraiment le tactus à tout moment, tandis que la main gauche est plus expressive. Et puis, on peut aussi voir, bien évidemment, ça m'arrive de reconnaître des élèves, et je reconnais, une école finlandaise, où je peux voir, par exemple, ici, ils sont passés par la Royal Academy, je reconnais aussi certains chefs que j'aime beaucoup, et puis je vois des jeunes générations qui passent derrière, qui copient un petit peu, qui s'inspirent. Et c'est normal d'imiter, je pense, au début, parce que c'est quand même un apprentissage tout particulier. Donc oui, je pense qu'il y a énormément de différences. Tout le monde ne dirige pas pareil, heureusement. Mais vous imaginez, c'est tout le monde jouer pareil, quel ennui.
C'est vrai. C'est plus une question de personnalité de maître que réellement d'école géographique.
Il y a absolument les deux. Moi, je sais que ça a été très déterminant pour moi, en tout cas, les personnes avec qui j'ai étudié. Et je leur dois énormément de choses. Bien évidemment, j'ai toujours eu ma personnalité. J'ai pu affiner des forces que j'avais. J'ai pu aussi combattre et en tout cas travailler sur des difficultés que j'avais. Mais je pense que pour tous les chefs de chœur ou d'orchestre, ce qui est important de se souvenir, c'est que justement notre individualité, notre personnalité, c'est finalement notre force. C'est ça qui nous rend uniques. Après, bien évidemment, toutes les munitions dont on peut se fournir pendant sa formation, mais c'est essentiel. Et d'avoir une technique qui est claire, qui est juste, et pouvoir distiller au maximum le discours musical dans son langage corporel, c'est quand même essentiel dans la vie d'un chef.
Nous écoutions le chœur de Radio France et l'orchestre philharmonique de Radio France, dirigé par Gwenolé Ruffet, interprété deux des cinq mouvements de El Beso, une pièce de Florent Motsch, enregistrée pour la série Alla Breve, une série que vous pouvez retrouver dans son intégralité le dimanche à 22h30. Il y a des places à gagner ce matin encore avec Fabrication Maison. Des places pour le concert que donnera l'Orchestre Philharmonique de Radio France vendredi 4 décembre à l'Auditorium de la Maison de la Radio. Au programme, la Symphonie de Chambre numéro 2 d'Arnold Schoenberg, le Concerto pour piano numéro 1 de Johannes Brahms avec en soliste Lise de la Salle et enfin le Quatuor opus 25 de Brahms dans la transcription pour orchestre de Schoenberg. À la baguette, Karl-Heinz Stephens. Pour gagner des places pour ce concert, il vous suffit de nous écrire en allant sur la page de Fabrication Maison sur le site de France Musique. C'est la fin de cette émission. Merci pour leur complicité à Pauline Boisaubert, Philippe Petit, Xavier Atto et José Bernays. Et à très vite, j'espère.